Avant de démarrer cet épisode, je voulais juste vous informer que cette semaine sont ouvertes les inscriptions pour rejoindre le Fertility Club. Vous avez notre programme sur 10 semaines pour vous aider à mieux comprendre votre corps, à l'optimiser, à mettre toutes les chances de votre côté quand on est en essai bébé. Alors si vous voulez le rejoindre, je vous mets le lien juste en dessous et n'hésitez pas si vous avez des questions.
Après 6 grossesses arrêtées par exemple, on ne retrouve une cause chromosomique qui explique les 6 épisodes que dans 30% des cas. Ce nombre de grossesses n'est quasiment jamais interprété, alors que c'est un élément qui est presque aussi important que l'âge, qui est bien sûr toujours mis en avant. Pourquoi on dit l'âge? Parce qu'avec l'âge, le pourcentage d'aneuploïdies, donc le pourcentage de mauvais embryons chromosomiquement non viables qui vont potentiellement amener donc à une grossesse arrêtée, tout simplement augmente.
Pourquoi faut-il souvent attendre d'être confronté à des dysfonctionnements pour commencer à s'intéresser à son corps de femme ou d'homme? Nos cycles, notre fertilité, nos hormones et nos nuances, on les connaît si peu en fait. Je suis Lorraine Saint-Dicic et ma mission, c'est de vous émanciper par une meilleure connaissance de votre corps. Chaque semaine, seule ou avec l'appui d'experts et d'expertes passionnés, on va vous apprendre à décrypter vos cycles, à vous autonomiser dans la gestion de votre fertilité ou de votre contraception. Bref, on va vous faire reprendre le pouvoir. Bienvenue chez Émanciper et place à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode qui, je vous préviens, sera peut-être un peu plus technique que d'habitude, mais en même temps tellement important et je suis sûre qu'il aidera énormément les personnes concernées. Je parle des gens qui ont vécu des arrêts de grossesse. La question que j'ai voulu poser au professeur Arsène Méquignan, que j'avais déjà reçu dans le podcast, c'était est-ce qu'on peut être incompatible? Parce que c'est une question qu'on me demande souvent, en me disant mais est-ce que finalement c'est mon mec et moi qui sommes pas compatibles, etc. Pour qu'on puisse aborder toute cette dimension immunologique de la grossesse, tout ce qui peut faire que parfois ça colle pas, ça veut pas, le corps n'accepte pas, etc. C'est un épisode aussi plein d'espoir, vous verrez. Donc j'espère que vous allez apprendre plein de choses, que ça va vous permettre, si vous êtes concerné, d'avancer. Si vous ne l'êtes pas, de pouvoir peut-être mieux accompagner si vous êtes pro de santé, etc. Encore une fois, c'est une grande chance de recevoir ce genre de personnes dans le podcast. Donc, merci au professeur Arsène Méquignan d'être venu nous expliquer tout ça. Je vous laisse avec lui. Place à l'épisode. Arsène, bonjour. C'est la deuxième fois que j'ai le plaisir de vous recevoir dans le podcast. On avait déjà fait un épisode sur l'infertilité inexpliquée, tout ce qui était immunitaire, etc. Et on s'était dit que ça pouvait être intéressant d'en faire un autre sur un espèce de... Alors, fantasme, c'est pas le mot, mais au contraire, grosse crainte que peuvent avoir des gens sur est-ce que je suis compatible avec mon conjoint pour faire un bébé. Et de là découlent plein de sujets sur l'immunité, l'acceptabilité d'une grossesse, etc. Donc, on va parler de ça ensemble. Vous êtes professeur en immuno, vous le direz mieux que moi. Mais en tout cas, vous êtes l'expert et j'entends souvent votre nom revenir par rapport à ces sujets-là. Donc, je pense que vous êtes la personne qui va pouvoir nous aider à défricher justement tous ces mythes autour de tout ça. Mais avant qu'on rentre là-dedans, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous présenter un peu plus en détail?
Merci Lorraine, merci pour l'invitation. Alors moi, je n'aime pas le terme expert pour une raison très simple, c'est que nous, les médecins, on se positionne surtout comme des gens qui sont intéressés par un sujet. C'est ça la question clé. Et je voudrais un petit peu démarrer par ça. Rappelons-nous aujourd'hui en France, donc moi je suis un des professeurs donc de médecine interne et donc d'immunologie clinique, et aujourd'hui, dans le domaine de la grossesse, qui est donc ce qu'on appelle l'immunologie de la reproduction, c'est une spécialité qui n'existe pas. Donc il faut commencer par la base, et c'est pour ça d'ailleurs les femmes souvent ont du mal à trouver un spécialiste, en tout cas dans le domaine immunologique potentiel de la grossesse, il n'y a pas de spécialité. Il y a donc des gens comme moi, pour des raisons X ou Y, personnelles des fois ou autres, se trouve passionné par ce sujet, et je fais partie en effet, malheureusement, je dis bien malheureusement, un des rares Français qui tout simplement s'y intéresse. Je suis pas forcément plus expert, mais tout simplement je m'y intéresse, ce qui est déjà un premier élément important.
Ouais, donc vous précisez ça pour dire que dans ce domaine-là, il n'y a pas encore tant d'expertise que ça.
Alors, je vais donc repartir de zéro. On va repartir donc dans l'ordre. Je vais prendre l'exemple d'une femme qui a donc 6 grossesses arrêtées. D'accord. Cette femme aujourd'hui subit malheureusement ce qu'on a vu nous dans le domaine des maladies rares, avant qu'on ait le plan ministériel, hein, donc des maladies rares, on est au troisième plan aujourd'hui, subit malheureusement une errance diagnostique. C'est-à-dire que elle va malheureusement le plus souvent être en face des médecins qui sont pas des mauvais médecins, qui tout simplement ne sont pas forcément des grands spécialistes de la question pour X ou Y raison, et qui globalement va faire que la femme va être très longtemps cheminer dans un point où on va lui dire réessayez encore, refaites encore une fois, vous êtes un petit peu jeune, ou au contraire, vous êtes un peu âgé, ça va venir, etc. Ça, c'est le premier élément majeur, malheureusement, aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas en France, pour le moment,
des centres, comme on est nous organisés dans nos maladies rares, où on a donc des centres de référence, de compétences, et donc il y a un maillage territorial français dans les maladies rares. Je prends l'exemple de l'angiodème, dont on n'est pas un centre de référence. Aujourd'hui, vous tapez sur Internet, vous avez des téléphones, vous avez des associations de patients, vous avez des médecins référents, vous allez très vite aiguillonner, et vous allez quand même être dans un, on va dire, parcours qui est appuyé, c'est-à-dire que vous allez être accompagné. Ce parcours aujourd'hui se met en place, bien heureusement, se met en place pour les grossesses arrêtées. Ça commence à venir, on commence à avoir des hôpitaux de jour spécialisés dans les grossesses arrêtées, on est en train de faire des recommandations françaises des grossesses arrêtées, et donc c'est un vrai parcours qui va se mettre en place de façon un peu plus officielle pour que les femmes n'aient pas d'errance. Je prends de nouveau donc l'exemple de cette femme. Si elle arrive à 6, 7, 8, 9, et mon record personnel est malheureusement de 33, si elle arrive à autant de grossesses arrêtées, c'est que ce n'est pas normal, c'est évident. Après, est-ce qu'il faut s'exciter à 1, 2, 3 ? Bon, ça va être des grandes discussions, mais en tout cas, 6, c'est évidemment hautement anormal, n'est pas rien du tout, c'est, rappelons-le, c'est une souffrance telle que nous, on l'aperçoit en tout cas, majeure pour les femmes, parce que premièrement, en général, on ne leur donne pas en fait cette impression qu'elles ont perdu un bébé. Vous allez aux urgences et une fois de plus, aucune critique évidemment de aucun de mes collègues. Il ne s'agit pas de ça. On est tous dans le même domaine. Je fais partie du système médical, donc je ne critique à aucune personne. Je dis juste que aujourd'hui, en effet, aux urgences, vous avez une femme qui fait une hémorragie de la délivrance et qui est en train de potentiellement mourir. Vous avez en effet à côté d'une femme qui a une grossesse arrêtée qu'on va mettre sur une petite chaise et qui va perdre potentiellement. C'est vrai que on a l'impression et la femme peut avoir l'impression qu'elle est un petit peu mise de côté, ce que n'est pas vrai, bien évidemment, aucun des médecins ne le considère vraiment comme ça. Mais la femme peut le vivre comme ça. Et du coup, cette dimension qui est celle de « je perds un bébé, je perds une vie et c'est extrêmement difficile pour moi », peut-être par nos médecins, peut-être un tout petit peu moins bien prise en charge que ce qu'on pourrait peut-être le faire. Et là encore, vraiment, ça s'améliore régulièrement parce qu'on a bien compris que les femmes sont souffrent cette sur ça, on avance là-dessus. Maintenant, pour revenir sur la question médicale, on va dire pragmatique. C'est-à-dire que voilà, ok, on voit cette femme qui a fait 6 grossesses arrêtées. Aujourd'hui, la première question qui est celle donc des grossesses par cause chromosomique, donc ce qui veut dire des chromosomes, des embryons qui sont génétiquement anormaux, donc non viables. Donc l'outil diagnostique aujourd'hui qui est disponible, l'analyse génétique de l'embryon fœtal, n'est faite que dans 10% des cas. C'est-à-dire que dans 90% des cas des femmes que je vais voir qui ont fait de 3 à 33 grossesses arrêtées, je ne vais avoir l'analyse génétique de l'embryon qui me permettra, s'il est normal, écarter la cause la plus fréquente qui est donc l'aneuploïdie, c'est-à-dire la sélection d'un mauvais embryon qui, de toute façon non viable, dans la minorité des cas. Et évidemment, comme vous le savez bien, maintenant un FIV, c'est-à-dire un PGTA, donc l'analyse génétique des embryons, est aujourd'hui interdite en France. C'est-à-dire que là, c'est la situation en amont. On va sélectionner l'embryon qui est euploïde, donc normal. Et donc, normalement, on n'a plus de grossesse chromosomique par défaut, en tout cas, d'anomalie chromosomique. Elle est interdite en France, à la différence de la majorité, bien évidemment, des pays européens. Pour revenir sur cette première question majeure, il faut bien la comprendre parce qu'elle est quand même majeure et je me bats aujourd'hui pour que cette analyse génétique chromosomique de l'embryon soit faisable à plus large échelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, elle n'est pas faisable dans la majorité des urgences françaises. Je ne discute pas là encore le pourquoi, le comment. Je dis juste.
Attendez, juste là, vous parlez des embryons après un arrêt de grossesse, pas les embryons FIV avant transfert. Ouais.
Non, ça c'est interdit, ça c'est pour le coup clair partout.
Ouais, là, il n'y a pas de sujet.
Il n'y a pas de sujet pour l'instant. Par contre, donc une femme perd un bébé. C'est une grossesse arrêtée précoce. Elle va aller aux urgences. Et aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas encore mis en place, sauf quelques endroits qui commencent à se mettre, l'analyse génétique des embryons, qui permet tout simplement de dire c'est un embryon XX. Donc, c'est une fille. Donc, il n'y a pas d'anomalie chromosomique. Donc, ce n'est pas une grossesse chromosomique par aneuploïdie. Ou alors, c'est XY, donc garçon. Et donc, là encore, il n'y a pas d'anomalie chromosomique. Rappelons-le, quand c'est XX, on a besoin, bien sûr, de vérifier la contamination maternelle, donc une prise de sang maternelle, pour bien sûr s'assurer que ce n'est pas le sang de la maman qu'on a prélevé. Donc, la cause aujourd'hui en France, où tout le monde dit c'est l'âge, essayer, réessayer, qui en fait, quand on dit ça, on dit que c'est la cause chromosomique. Et en fait, finalement, quasiment jamais diagnostiqué. Donc, c'est d'ailleurs l'effort que je salue évidemment de mon ami de toujours, Jonathan Cohen, qui maintenant a mis en place un circuit parce que ça fait des années qu'on le fait ensemble et on peut le faire. Mais aujourd'hui, attention, ce ne sont pas sur le plan des recommandations quelque chose qui est recommandé. Voilà, je me bats aujourd'hui dans les recommandations qu'on est en train de faire pour que ça apparaisse clairement. Et donc, il faut donc revenir à la base. On dit la majorité des aneuploïdies sont, en fait, les maladies des grossesses arrêtées sont par aneuploïdie, mais on n'a pas l'outil diagnostic pratiqué, alors qu'on l'a, cet outil, en main. Et rappelons un autre élément important, en tout cas, y compris, qui n'est pas très clair, même dans les esprits des fois de nos amis et collègues, c'est que plus le nombre de grossesses est important, donc 2, 4, 5, 6, 10, 15, moins la cause chromosomique est fréquente. C'est-à-dire que vous devez imaginer que quand on dit que c'est 6 fois le chromosomiquement normal, c'est que 6 fois de suite, on a sélectionné un mauvais embryon. Et on a des chiffres dans les études un peu historiques. Après 6 grossesses arrêtées, par exemple, on ne retrouve une cause chromosomique qui explique les 6 épisodes que dans 30% des cas. Okay. Après 10, c'est quasiment que 5 à 10%. Donc, ce nombre de grossesses n'est quasiment jamais interprété, alors que c'est un élément qui est presque aussi important que l'âge, qui est bien sûr toujours mis en avant. Et donc là, j'explique de nouveau un élément qui est probablement important pour en finir avec cette aneuploïdie, c'est que pourquoi on dit l'âge? Parce qu'avec l'âge, le pourcentage d'aneuploïdie, donc le pourcentage de mauvais embryons chromosomiquement non viables qui vont potentiellement amener donc à une grossesse arrêtée, tout simplement augmente. Et qu'on considère aujourd'hui qu'à la quarantaine, en effet, 70% des embryons sont aneuploïdes, donc chromosomiquement normaux. Et c'est pour ça qu'après la quarantaine, les médecins souvent considèrent même pas vraiment deux fois le sujet ou disent, bon, c'est le plus souvent chromosomiquement normal. Mais attention, là encore, ce n'est pas toujours vrai. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'hypothèse numéro une, c'est que c'est une sélection donc au hasard. Mais vous le savez bien, et dans la physiologie humaine, on a le plus souvent plutôt des sélections darwiniennes et qu'on ne serait pas surpris de trouver des modèles qui sélectionnent que des bons embryons, même quand il y en a beaucoup de mauvais, ou au contraire, qu'il y ait des défaillances, bien sûr, dont immunologiques, par les perturbateurs endocriniens, le stress oxydant, donc les sociétés européennes, qui sélectionneraient les mauvais. Donc, ce premier parti est pour moi la plus importante. La cause chromosomique fréquente, l'outil diagnostique disponible, fiable, mais le plus souvent non fait. Et donc, le raisonnement qui est un raisonnement d'hypothèse de dire ce n'est pas chromosomique a priori, donc c'est peut-être immunologique.
Ouais. Oui, c'est ce que Jonathan Cohen, je sais qu'il appelle ça le produit de fausse couche, alors c'est un peu moins joli, mais c'est ça, c'est d'analyser, de récupérer en fait l'embryon qui ne s'est pas accroché pour l'analyser et voir s'il a un défaut chromosomique, ce qu'on appelle l'aneuploïdie, ou pas, et dans ce cas-là, écarter ou pas la piste chromosomique. Et si on revient à notre question de base, qui est cette peur parfois de ne pas être compatible, est-ce que ça, c'est, vous allez développer, mais une potentielle incompatibilité, ça peut donner des embryons justement mal fichus, entre guillemets, aneuploïdes, ou est-ce que c'est plus sur un rejet de la mère?
Alors, c'est là où on arrive à la deuxième partie du sujet. C'est qu'aujourd'hui, on considère que n'a pas l'état de connaissance pour dire que c'est de l'incompatibilité pour la sélection des mauvais chromosomes. Donc, on est plutôt à dire, voilà, on a mis de côté la cause chromosomique, soit parce qu'on a l'embryon normal, soit parce que la femme est très jeune, elle a fait beaucoup d'événements, donc par hypothèse, c'est plutôt la cause fréquente. Et donc, on rentre dans la question immunologique. J'élimine là toutes les autres causes potentielles, bien sûr, la cause anatomique, j'ai une synéchie, j'ai une cloison, la cause du diabète des équipes. Enfin, donc, après avoir exclu tout ça, on se retrouve avec en tout cas, une situation, alors on prend l'exemple d'une femme qui a 12 grossesses arrêtées, qui est jeune, qui a 28 ans, qui a une excellente réserve ovarienne, on a éliminé toutes les potentielles causes autres associées, on est donc dans la cause immunologique par définition quasiment de façon certaine. C'est là-dedans que rentrent donc tous ces outils qui se sont développés par des startups qui sont aujourd'hui pour essayer de démontrer qu'il y a soit une incompatibilité immunologique, soit une réaction immunologique excessive. Donc, la question de la réaction immunologique excessive, c'est par exemple le Matrice Lab, qui ne vous montre pas forcément que vous êtes compatible ou pas, mais qui montre une réaction excessive inflammatoire. C'est par exemple toutes les formes de tests qui sont les tests de dysbiose pour dire que c'est l'inflammation utérine ou vaginale excessive qui pourrait amener donc une inflammation et donc empêcher l'implantation de l'embryon. Ou donc ce concept de potentielle incompatibilité chez la KIR, hein, qui cette fois-ci serait responsable, comme je vais vous l'expliquer, potentiellement d'un défaut d'implantation parce qu'il est responsable globalement d'un défaut d'invasion trophoblastique. Donc, c'est en fait une inhibition globalement de l'implantation de la grossesse et non pas l'excès de l'inflammation comme on a le plus souvent le concept.
Ouais. Donc là, on a carrément même... Enfin, parce que vous dites que c'est des femmes qui ont potentiellement eu beaucoup de grossesses arrêtées. Donc, on peut quand même avoir une implantation et cette incompatibilité qui provoque un rejet après, ou on n'a carrément même pas d'implantation.
L'idée de la compatibilité, pour prendre maintenant ce premier exemple. Alors, pour rigoler un petit peu, quand j'étais jeune, je rigolais beaucoup avec ça, avec les patients, parce que moi, j'aime bien rigoler, même si des sujets sont graves. Et je leur disais, faut changer de mari. Alors, certaines ont suivi. Non, je rigole bien évidemment. C'est aussi une blague. Mais certaines l'ont fait. Et je vous assure, elles l'ont fait de façon, sans même qu'on leur dise quoi que ce soit. Ça ne marche pas, évidemment. Parce que si vous voulez, malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Alors, sur cette question d'incompatibilité, premier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont aujourd'hui des données qui sont principalement basées sur des données espagnoles, les Achelakir. Donc, on revient là à un sujet qui est que c'est uniquement, donc de façon d'ailleurs non académique, et dans un des rares pays, hein, a été développé ce concept qui est tout à fait intéressant, qui est de dire, on a donc des HLA, et les HLA, si vous voulez, c'est qu'on va devoir avoir donc d'un côté le fœtus, et on va avoir de l'autre côté les cellules trophoblastiques de la maman. Donc, la maman va porter des lymphocytes, hein, globalement, ce sont les lymphocytes qui peuvent attaquer le fœtus, globalement, parce que, comme on se rappelle, hein, ça reste un corps étranger, et comme peut-être certains le savent, c'est la grossesse est la seule situation physiologique aujourd'hui où un corps étranger n'est pas rejeté. Il n'y a pas d'autre exemple hein, de transplantation, ce qu'on appelle réussie, c'est-à-dire on prend un bout de quelque chose, on l'implante chez quelqu'un et ça n'est pas rejeté. Donc, il y a donc dans ces mécanismes donc de rejet, le couple qui est d'une part donc les HLA portés C par le fœtus, donc c'est HLA C, hein, il y en a différents types d'HLA, mais là c'est les HLA C. Et puis il y a donc des KIR, ce qu'on appelle, qui sont des récepteurs, donc des cellules NK, donc natural killer, qui sont les cellules du rejet de greffe, hein, de façon générale, qui eux portent donc ces KIR, qui sont donc censés en fait faire globalement un couple avec les HLA C. Donc, il y a des dizaines d'HLA KIR, il y a des dizaines d'HLA C différents, et on considère que donc dans les KIR, on a donc les AA, les AB et les BB. Donc, ce sont donc différents couples, des haplotypes, ce qu'on appelle des HLA, enfin des KIR qui peuvent être portés par une maman. Donc, une maman va être soit AA, soit AB, soit BB, et donc c'est bien sûr quelque chose qu'on va retrouver dans la population. On va avoir à peu près 15% des AA, une trentaine % de AB, une trentaine % de BB. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas unique déjà. C'est quelque chose même qui est assez fréquent dans la population globale.
Et ça, on peut le mesurer. Moi, je peux savoir ce que je suis.
On peut faire ce test très facilement. Je vais le dire à la fin, un petit peu plus tard, où est-ce que ça se fait. Et donc, on va donc en face de ces HLA regarder donc les haplotypes C, qui peuvent être soit C1, soit C2. Donc, on a toujours deux. Donc, ça peut être C1, 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 C2 ou C2, C2. Et donc, là-dedans, le concept qui est important et qui est probablement vrai, c'est que quand on regarde le couple, donc AA, C1, AA, C2, C2, AA, C1, C2, la proportion de personnes qui, en effet, ont des grossesses arrêtées est plus fréquente quand on a donc AA avec une charge C2 plus importante. C'est-à-dire, plus on a de C2 et plus on a de C2 fœtales, c'est-à-dire, voilà, on va compter les C2 de la maman, on va compter les C2 du fœtus, les C2 de papa. On additionne tout ça et plus on a de C2 en face des AA et plus la fréquence, donc la probabilité de faire des grossesses arrêtées augmente. Mais elle n'est jamais de 100%. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'on distingue donc un marqueur, nous, qui est un test diagnostique fiable à 100%, c'est l'analyse génétique. C'est normal, c'est pas normal, c'est blanc ou noir. Mmh. Et on distingue des facteurs potentiellement associés, et c'est un réel facteur associé, hein, de grossesse arrêtée, qui sont présents ou absents, mais qui ne sont pas donc 0 ou 1, mais qui sont graduels, et qui ne sont pas donc pathognomoniques, qui ne sont pas du 100%. C'est-à-dire que si on prend la population globale où vous avez 15% de AA avec, par exemple, une charge C2 très importante, bien heureusement, évidemment, ils ne sont pas tous infertiles. C'est-à-dire que si on prend dans l'autre
sens... ils ne le savent pas, quoi. Ils n'ont jamais fait le test.
Ils ne le savent pas, mais si vous testez, et bien sûr, ça a été fait, si vous regardez toutes les femmes qui sont soi-disant extrêmement incompatibles, donc AA avec le maximum de C2 du papa, du fœtus, de la maman, évidemment, ils ne sont pas tous infertiles, bien même loin de là, ils ne sont même pas à 90% infertiles. Ouais. C'est pour ça que, si vous voulez, ce marqueur n'est pas forcément très reconnu sur le plan international aujourd'hui. Et donc, d'ailleurs, pour la petite histoire, en France, ça ne se fait que dans un seul endroit. Et devinez qui l'a mis en place?
Je sais pas. Matrice Lab, non?
Non, moi. Pourquoi je l'ai mis?
Le meilleur, excusez-moi.
Non, loin de là, parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Non, je l'ai mis en place en France. Pourquoi? Et à Décines, hein, c'est pour vous dire. Hein, c'est-à-dire que Décines, moi, j'adore. Hein, c'est très joli, mais j'ai cherché Paris, j'ai cherché Nantes, j'ai cherché Lyon. Personne ne voulait le faire. Je l'ai mis en place, parce que on est toujours intéressé par quoi que ce fait ailleurs parce qu'on veut comprendre. Deux, parce qu'il y avait une pression, malheureusement, des femmes énormissime pour le faire et qui partaient en Espagne pour le faire. Et trois, ça coûte 10 fois moins cher qu'en Espagne. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais ce que je veux dire juste par là, si vous voulez, c'est que si, voilà, pour une raison X, Y, moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, ne s'était pas battu, ça serait même pas disponible en France. Ce n'est pas disponible, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres pays. Et donc, quand on a ce résultat d'Achille Akir, qui par contre en Espagne est quelque chose fait de façon très, très élargie, c'est pas qu'on se méfie ou pas. C'est juste qu'il faut regarder la réalité. La réalité, c'est que c'est un marqueur physiologiquement intéressant. C'est indiscutable. C'est un marqueur qui est clairement pas un marqueur diagnostique fiable tel que nous, on le veut. C'est-à-dire, nous, on veut du 100% ou proche de 90%.
Vous voulez du noir ou blanc. Là, c'est pas noir ou blanc.
En tout cas, c'est comme ça que c'est plus facile quand même. Et que globalement, il est quand même probablement un peu surinterprété. Et surtout, l'élément le plus important, c'est que ce marqueur nous amène surtout à considérer qu'on a un défaut d'inhibition et donc un défaut de sécrétion du GCSF. Et le vrai intérêt de ce résultat, il est de dire, je vais mettre du GCSF. Parce que sinon, si c'est juste pour dire, ah, vous êtes peut-être un peu moins compatible que le personne lambda qui est ABBB, ça ne va pas changer grand-chose à votre vie.
Alors, GCSF, c'est quoi?
Les Espagnols, ce qu'ils font. Les Espagnols, ils disent, OK, donc la maman, elle est AA, le papa, le fœtus sont C2 maximum, donc ils sont considérés comme hautement incompatibles. Dans ces hautement incompatibles, j'ai constaté un pourcentage de patients infertiles ou grossesse arrêtée plus fréquent que de profil AB ou BB. Je vais donc évidemment mettre en place un traitement, puisque je ne vais pas pouvoir changer le couple. Sauf que, d'ailleurs, ils sont l'un des rares à le faire au monde, dans les cas où on est un don, par contre, on peut compatibiliser tout simplement sur les Achille Akir.
Mais oui, on va chercher un homme qui est passé de quoi.
Tout simplement, mais évidemment, ou une maman qui n'est pas A. Mais évidemment, si vous voulez, si vous êtes dans un couple réel avec leur propre ovocyte et spermatozoïde, on ne peut pas changer cette variable. Ouais. Donc, on va utiliser le GCSF, puisque dans ces profils, on pourrait imaginer physiologiquement, en effet, qu'on a un défaut de GCSF, qui est le facteur de croissance utilisé tous les jours en hématologie pour les globules blancs, qui est par ailleurs un facteur très important produit par le trophoblaste pour augmenter la tolérance materno-fœtale. Donc, ce n'est pas de la science-fiction. C'est vrai, c'est quelque chose qui est intéressant physiologiquement. Et donc, le GCSF est utilisé aujourd'hui par les quelques équipes, principalement espagnoles et italiennes, pour donc empêcher les grossesses arrêtées. Le problème donc de tous les marqueurs, et c'est pour ça que les femmes vraiment sur les forums, elles parlent beaucoup, elles donnent bien sûr des informations, mais c'est un élément qu'il faut garder dans l'interprétation de chaque facteur qu'on a. Un facteur n'est vrai que si quand on le corrige, il aboutit à une grossesse à évoluer. Sinon, ce facteur, excusez-moi l'expression, on s'en fout. C'est comme si vous me disiez, j'ai trois taches, mais cette fois, si elles n'ont aucune signification, peu importe que j'ai des taches ou pas sur la peau. Au jour d'aujourd'hui, donc c'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on a eu des essais thérapeutiques très importants, qui malheureusement sont négatifs avec le GCSF, mais elles n'étaient pas conduites dans les bonnes conditions. Et on a un tout petit peu de données rétrospectives, ça veut dire que voilà, le collègue y croyait, il a fait un petit peu ça sur quelques malades, et il a trouvé quelques résultats intéressants. Ces résultats intéressants, là encore, c'est une augmentation environ de 15 ou 20% de grossesse à terme suite au traitement, ce qui sont globalement des proportions qui ne sont pas très importantes. Donc aujourd'hui, pour tous les tests, que ce soit le Matrice Lab, les HLA Kir, la dysbiose, le phénotypage lymphocytaire, les anti-HLA, et là je vous ai passé juste quelques-uns de tous ces tests immunologiques qu'on essaie de développer, aucun de ces tests méthodologiquement n'a pas validé de façon scientifique telle que nous, dans la recherche académique, on en a besoin, la modulation de ces marqueurs pour démontrer que quand on change ce marqueur, la dysbiose par exemple, les UNK activés ou je ne sais pas quoi, on aboutit à une grossesse suivante, ce qui est quand même notre objectif numéro un. Notre objectif, ce n'est pas d'observer des anomalies. Les anomalies, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est une femme, un couple d'ailleurs, qui a un enfant.
Ouais, après, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de recherche. Que c'est juste qu'il faut.
Ça, c'est un deuxième élément important.
Bah ouais.
C'est qu'au jour d'aujourd'hui, pour faire de la recherche, si vous voulez, il faut un intérêt. Il faut un intérêt scientifique. Il faut donc des aspects financiers. Il faut des meneurs. Donc, si on prend l'exemple de l'immunologie de la reproduction spécialisée qui n'existe pas, le seul essai thérapeutique français de l'immunomodulation, le premier français, c'est nos amis de Brest, les épées de Pasquier, l'hydroxychloroquine. Et les deux autres seuls essais où j'ai mis 10 ans à les obtenir, parce que la grossesse est un sujet monstrueusement difficile sur le plan administratif, c'est les miennes. Donc, l'interleukine low dose, je vous passe les détails, et puis les TNF et NFA inhibiteurs. Donc, on a aujourd'hui en France, dans un pays à haut niveau scientifique, bien sûr, uniquement 3 essais immunologiques et c'est très, très proche de ce qui se passe dans le monde. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est bien sûr les essais et les démonstrations tout simplement de chaque marqueur. Si on était beaucoup plus fort et si on avait plus de ressources et plus d'organisation, on démontrait très rapidement que la Escherichia, oui, c'est bien, oui, non, c'est pas bien. Et
ouais,
le sujet est clos.
Il n'y a pas assez d'intérêt financier pour que des gens financent ça.
Il n'y a pas assez aujourd'hui de meneurs. Hein. Il ne faut pas oublier que la médecine se fait par des hommes qui mènent, ou des femmes, bien sûr, qui mènent un sujet. Ils se battent pour ce sujet, ils créent une dynamique, ils créent des gens qui sont passionnés. Aujourd'hui, on sait la valeur des patients, des réseaux sociaux, tout ça, c'est très important. Les patients experts, ils sont passionnés et on monte et on monte. Et c'est-à-dire que moi, je l'ai vécu. Je vous donne l'exemple de l'angiodème, hein, qui est un des centres de référence français. Il y a 20 ans, l'angiodème, aucun traitement. Aujourd'hui, on est arrivé à la thérapie génique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable, dans cette maladie où il n'y a que 600 personnes en France, alors que l'infertilité, c'est des milliers de personnes, on est capable, dans cette maladie, de changer un gène, aujourd'hui, pour guérir de cette maladie. Peu importe quel est le sujet le plus intéressant, c'est pas la question. C'est juste pour dire que ce sont des hommes, et c'est pas moi, hein, c'est d'autres personnes qui ont mené ce combat et qui ont réussi à le mener avec les labos pharma, etc., pour construire des essais et vraiment modifier, si vous voulez, la prise en charge des malades.
Ouais. Donc vous, ce que vous dites, c'est qu'avec davantage d'études, on pourrait arriver à démontrer que la prise de tel traitement, quand on a une incompatibilité où la femme est A, l'homme est C2, c'est ça, hein, on pourrait contourner.
Ça, c'est un des sujets, mais on frappait forcément.
Oui, il y en a plein d'autres.
Mais je reprends maintenant un autre élément important quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de personnes veulent avoir une réponse sur ce qui leur arrive. C'est-à-dire que ça, c'est psychologie pour un élément qui est extrêmement important. Et donc, quand ils trouvent un Escherichia, ils ont un soulagement énorme. Ils se disent « Enfin, j'ai trouvé ce que j'ai ». Mais je reviens quand même aux bases de la médecine telle qu'on la pratique aujourd'hui. On ne s'en sort pas si mal que ça dans d'autres domaines. Dans la majorité des cas, en fait, hein, c'est là-dessus qu'on est toujours humble hein, quand on connaît bien la médecine, on n'a pas le diagnostic. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de quelqu'un qui vient pour de la fièvre aux urgences. On n'aura pas avant un certain nombre de temps, de jours, des fois, au moins des semaines, avant un certain nombre d'explorations, et des fois d'ailleurs pas du tout, le diagnostic précis, si on prend l'exemple d'une pneumonie. Dans la majorité des cas d'une infection pulmonaire, je n'aurai pas un diagnostic final. Je ne saurai pas si c'est une bactérie, si c'est un virus. Mais ça ne m'empêchera pas de bien traiter correctement mon malade. Je vous prends l'exemple des plaquettes qui sont basses, par exemple, ce qu'on appelle une thrombopénie. Je n'ai aucun outil diagnostique aujourd'hui intéressant de la thrombopénie, alors que nous, en France, on est l'un des meilleurs centres français mondiaux. Aujourd'hui, je vais exclure les autres situations, la leucémie aiguë, je ne sais pas quoi, et je vais dire, OK, ce qui reste, c'est immunologique, je vais le traiter. Mais on s'en sort très bien. Et aujourd'hui, si on regarde le panorama de nos maladies immunologiques, on n'a quasiment jamais réussi à trouver des marqueurs fiables. Je prends l'exemple de la polyarthrite rhumatoïde, la maladie numéro 1 immunologique dans le monde, avec des milliards investis dans la recherche, avec des centaines de laboratoires uniquement en France. Au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'on sait faire, c'est de mettre en traitement et s'il ne marche pas, de le changer. Donc, on n'est pas dans une médecine individualisée, personnalisée. Ouais. Et donc, aujourd'hui, je dis très clairement hein, aux femmes, il ne faut pas forcément chercher ça dans un domaine qui est même pas 1% de la recherche française aujourd'hui. Mais ça ne nous empêche pas de les soigner. Et on n'a pas toujours forcément les réponses. On a par contre le parcours et on a le bout du parcours. Et c'est ce qu'on voit nous aujourd'hui en médecine. C'est-à-dire que oui, on peut ne pas avoir un diagnostic précis, mais ce qui compte, c'est de soigner. Ce qui compte, c'est que la personne rentre à la maison avec quelque chose qui s'est résorbé. Ce n'est pas forcément toujours un diagnostic. Et donc, sur les outils diagnostiques aujourd'hui, ceux qui veulent essayer de me convaincre que là, on a échoué dans la maladie de Crohn, dans la polyarthrite rhumatoïde avec des milliards investis, on n'a toujours pas trouvé individualisé un traitement, qu'on va le trouver parce qu'il y a une start-up qui a mis quelques millions et qui va le trouver dans le domaine de l'infertilité qui est juste quelque chose qui monte, je n'y crois pas pour l'instant du tout, très clairement. Même si c'est bien sûr des parallèles qui sont peut-être faux, hein, c'est pas la question.
Ouais. Après, ce que vous dites, c'est que ça concerne tellement plus de monde, l'infertilité, qu'il y a besoin de faire avancer la recherche pour...
Mais elle est en train d'avancer. On ne le voit pas parce que ce n'est pas à crier sur les toits, mais moi qui fais ça depuis plus de 15 ans... Il n'y a pas de discussion. Aujourd'hui, il y a un vrai progrès qui a démarré. Et le progrès, à mon niveau, je le vois très simplement. Je soumettais tous les ans des études à financer et je commence à avoir enfin des études qui passent parce que les mentalités ont changé, le sujet commence à intéresser. Le plan du ministère de Macron, de l'infertilité, a été quand même quelque chose qui a clairement tapé sur la table en disant, voilà, l'infertilité, c'est un sujet majeur. Donc, on va très rapidement, là, d'ici 5 à 10 ans, avoir des progrès énormes. Sûr.
Ouais.
Parce qu'on a vu ça en médecine dans tous les domaines. Voilà. Je suis suffisamment jeune et suffisamment vieux pour avoir vu des domaines où on n'y avait rien, où on a 15 ans réussi à construire des choses exceptionnelles. Je parle de beaucoup de mes amis français. Et il suffit de s'intéresser et d'avoir un peu d'aide et les sujets avancent. Et aujourd'hui, la grossesse, ça commence à être l'infertilité, ça commence un vrai sujet auquel tout le monde s'intéresse. Donc, on va avoir des progrès. Ils sont d'ailleurs en cours. Hein. J'ai déjà réussi à faire 2 essais thérapeutiques, ce qui est incroyable. Je n'aurais pas imaginé il y a 5 ans. C'est vraiment de progrès.
Ouais. Si on revient sur notre sujet donc de l'incompatibilité, je voudrais juste qu'on résume un peu parce que je pense qu'il y a plein de gens que ça intéresse. Ce que j'essaye de récapituler, vous me dites si j'ai bon ou pas. Quand on a des embryons qui se développent pas bien, qu'on a pu les étudier, machin, là, il y a pas de question de compatibilité, c'est plus un souci génétique d'un côté ou de l'autre. Enfin, voilà, c'est pas la rencontre des deux qui fait que l'embryon se développe pas bien, c'est plus un des deux qui va apporter quelque chose. Là où ça peut être plus de l'incompatibilité, je mets des énormes guillemets, c'est quand on a des soucis d'accroche, de rejet, etc. Et là, on est plus sur cette thématique un peu Hachel-Hakir où la femme et l'homme vont avoir une association qui fonctionne pas bien. Est-ce que j'ai résumé pour les béotiens, hein, mais
on va schématiser. En effet, aujourd'hui, dans l'état, pas tout développé là, mais en tout cas, dans l'état actuel des connaissances, quand l'embryon est chromosomiquement anormal, on va dire qu'on va mettre de côté le sujet de la compatibilité.
Quand il est chromosomiquement anormal.
Anormal. Voilà. Maintenant, quand il est chromosomiquement normal et qu'on a éliminé les autres situations qui peuvent donner de la grossesse arrêtée, de l'échec d'implantation, et qu'on imagine donc la cause immunologique, là-dedans, on va donc avoir deux voies. La voie des maladies auto-immunes, qu'on va un petit peu aborder,
qui est
faible, hein, et la maladie allo-immune, donc le rejet de greffe, donc cette incompatibilité, c'est tout à fait les mêmes choses, hein, qui est donc où là, on va avoir différentes voies de l'incompatibilité, dont les Hachel-Hakir, les NK, etc.
Oui.
Et là-dedans, dans cette petite voie-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un examen, et là, on arrive à un autre concept sur les maladies placentaires inflammatoires, un examen où, lorsqu'il trouve une anomalie, on est 100% sûr qu'il y a de l'incompatibilité. C'est donc l'analyse placentaire qui montre donc de l'entérovélite ou du dépôt de fibrinoïdes excessif. Qu'est-ce que sont ces deux maladies placentaires? Ces deux maladies placentaires sont aujourd'hui rares, c'est-à-dire c'est 1 à 5% de toutes les grossesses pathologiques. Deuxième élément important, et là encore, hein, c'est par méconnaissance ou par d'autres questions que je ne vais pas aborder ici, l'analyse placentaire dans les grossesses arrêtées est rarement faite, en tout cas l'analyse histologique, pardon. Parce que tout simplement, elle est peu rentable, parce qu'on a peu de phytopathes, parce que ce n'est pas toujours facile de le faire. Mais en revanche, dans ces 2 à 5% des cas, lorsqu'elle démontre la présence donc, de l'entérovélite est la présence dans la chambre entérovileuse, qui est donc en fait la chambre de sang qui baigne entre la maman et le fœtus, hein, donc qui est la chambre qui nourrit le petit fœtus. Quand on trouve dans cette chambre des cellules inflammatoires, donc qui sont des macrophages, ça c'est l'entérovélite, ou d'autres cellules, ça c'est le maternal flore, peu importe. Là, par contre, ce sont des maladies qui signent par définition un rejet de greffe. Donc, un tableau d'incompatibilité immunologique potentielle entre, en tout cas, deux matériels génétiques. Je ne veux pas dire un couple parce que ça stigmatise les gens, ça les culpabilise, c'est pas l'objectif. C'est entre deux potentiellement matériels génétiques. Voilà. Cette situation, vous voyez, on a deux situations. On a la certitude diagnostique, hein, l'analyse génétique, l'analyse placentaire, certes rare, mais quand même disponible, et qui ne sont pas faites. Donc ça, c'est la première base qu'il faut, tout simplement.
Ouais, mais ça, c'est des grossesses déjà un peu avancées pour qu'on ait un placenta bien développé.
Plus de 4 semaines de ménorrhée, on peut analyser.
Ouais, voilà. Donc ça, on n'est pas sur de l'arrêt de grossesse précoce dans ces cas-là.
L'arrêt de grossesse précoce, c'est moins de 14. Donc, si on est sur les grossesses arrêtées précoces, c'est juste qu'on ne peut pas le faire sur des grossesses biochimiques, ce qu'on appelle, sur des grossesses
parce qu'on n'a pas le matériel à évaluer.
Et on peut le faire dans la grande majorité des grossesses arrêtées précoces qui s'arrêtent à 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 semaines d'aménorrhée.
Je vous interromps juste 2 secondes parce qu'il y a une question importante par rapport à ça. Quand on dit qu'il faut analyser, moi, j'ai déjà vécu des arrêts de grossesse. Je le sais, une que j'ai évacuée moi-même Et dans ce cas-là, il faudrait quoi? Que la femme, on l'invite à récupérer? C'est très glauque, hein, ce que je dis, mais c'est la réalité. Toutes les femmes qui ont vu ça ont vu qu'il y a un moment où on évacue.
Il faudra inviter mon ami Jonathan Cohen.
Ouais, j'en ai déjà parlé avec lui. Bien. Non, mais je veux dire, sinon, c'est. Et moi, je sais que j'ai déjà eu aussi un curetage. Et dans ce cas-là, c'est au moment du curetage qu'on devrait demander merci de conserver. Alors, ce que vous.
Il y a deux situations. Il y a la situation facile, en tout cas pour le médecin, hein, qui est, voilà, je dois faire une aspiration, un curetage, donc j'ai accès au matériel directement, donc je l'envoie à un fœtopathe et j'envoie la génétique à côté. Ça, c'est, on va dire, la situation facile. La situation difficile, c'est quand la femme, bien sûr, perd d'elle-même et qu'elle n'a pas le temps d'aller faire les choses. Et là, c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile parce que on peut tout simplement conserver ce qui tombe dans un bocal stérile. Évidemment que ça rend la qualité de ce qu'on va observer un peu plus difficile. Voilà.
Ouais.
Pas pour l'ADN, hein, parce que pour l'ADN, vous avez vu au Louvre, hein, il suffit d'engan qui est resté là 3-4 jours et vous pouvez avoir de l'ADN. Donc, c'est exactement la même chose. L'ADN, on en a besoin très, très peu. L'ADN, la vraie difficulté, c'est de vérifier qu'on ne s'est pas contaminé par le sang de la maman. Par contre, oui, pour un examen histologique, ça peut être, bien sûr, un peu, voilà. Donc, oui, c'est de façon plus simple, mais une fois de plus, depuis qu'on a le circuit avec certains de nos collègues, en vrai, ça fonctionne très bien. Lorsque la femme sait très bien où tout de suite téléphoner, tout de suite aller, on arrive quand même, bon, pas toujours, mais on arrive quand même dans une bonne partie des cas à recevoir quand même des résultats, et on le fait vraiment maintenant tellement souvent que vraiment c'est faisable.
Ouais.
C'est faisable dans la majorité, en tout cas.
Voilà, vous avez parlé du docteur Jonathan Cohen. Lui, il a créé une asso qui s'appelle SOS Fausse Couche, qui aide les femmes à justement trouver les bons interlocuteurs pour pouvoir faire cette fameuse analyse du produit de fausse couche.
Écoutez, moi, je fais pas beaucoup de pub, ni pour moi, ni pour les autres, parce que
Non, c'est pas pour faire de la pub, c'est que c'est hyper utile.
Non, mais c'est très important pour que les gens comprennent bien. Normalement, ça, et c'est pour ça que je me base sur les recommandations pour le changer, ces éléments doivent venir de nos sociétés savantes. Ce doivent être des recommandations nationales. Attention, beaucoup de choses que je fais de façon personnelle et que je soigne de façon, d'une façon ou d'une autre sont de la pratique personnelle, etc. On est des médecins hospitaliers, on est des médecins privés, on est des médecins, en tout cas en France. Normalement, on a des recommandations de nos sociétés savantes. C'est très, très important. Et c'est pour ça que même les associations, c'est bien sûr très bien, hein, je préside deux associations, mais il est important, et on sait très bien avec Jonathan Cohen, que ça devienne des recommandations nationales, c'est-à-dire qu'il soit positionné le sujet par une société savante qui le dit de façon claire. Vous devez faire, et j'espère aboutir à au moins l'analyse après 3 grossesses arrêtées, je pense que j'y arriverai, au moins que voilà. Et là, pour le coup, ça prend de la valeur. Il ne faut pas oublier cet élément très important. Ce ne sont pas ni les réseaux, ni les associations, ni les forums. Ce sont le gouvernement, les recommandations ministérielles, les décrets qui font la loi. Et on se bat pour ça. C'est la loi qui...
Hein? Oui, non, mais c'est bien. Ce qu'on fait là, il participe sûrement un petit peu.
Complètement. Complètement.
Emmanuel Macron, si vous nous écoutez. Mais
il a lancé le plan en fertilité. On ne peut pas lui demander plus. Hein. Il a fait.
Ouais, je ne sais pas. C'est pas le sujet. Mais ouais. OK, donc ça, c'était, vous disiez, la première piste.
Mais moi, je vais être politiquement correct.
On est très politiquement correct. Et je vous ai interrompu, et vous alliez nous dire la deuxième piste.
Dans la cause immunologique, donc allo-immune. Voilà, donc on a été un petit peu, c'est difficile de tout développer, mais en tout cas, on a dit le bout, quand il est présent, c'est le placenta anormal. Donc ça nous aide énormément. Tous les outils entre les deux, potentiellement, pourquoi pas. Et puis donc, de façon beaucoup moins importante, il y a la piste auto-immune cette fois-ci. Là, il ne s'agit pas d'incompatibilité, il ne s'agit pas d'un rejet d'un organisme extérieur. Il s'agit d'une réaction immunologique contre l'organisme du soi. Ce sont donc concept de maladie auto-immune, qui d'ailleurs, normalement, ma vraie spécialité. Dans ces maladies donc auto-immunes, il y en a une majoritairement qui est religieusement respectée dans toutes les recherches, en tout cas biologiques, par nos amis obstétriciens, qui est donc le syndrome des antiphospholipides. Le syndrome des antiphospholipides, c'est la présence des auto-anticorps, donc c'est des anticorps qui attaquent le soi, qui donc sont des anticorps qui attaquent certains auto-antigènes, on va dire une placenta, pour un peu simplifier le sujet. Ça veut dire que là, cette maladie, elle est assez simple à diagnostiquer. On a des événements obstétricaux, on fait la recherche dans le sang des auto-anticorps, on les trouve, ça s'appelle un SAPL. Et là, bien sûr, ce n'est pas dans l'incompatibilité, c'est de la maladie immunologique, comme la polyarthrite rhumatoïde, hein, qui attaque les articulations, comme la maladie de Crohn qui attaque le tube digestif. Là, c'est une maladie qui attaque le placenta. Mais, est-ce que malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas? Et pourquoi je dis ça? Parce que nous, on voit des personnes qui malheureusement arrivent affolées. Ils arrivent affolés avec un test qu'ils ont fait, ils ont mis 2-3 mois à une consultation, et ils sont affolés parce qu'ils ont regardé sur les forums, ils ont vu SAPL, ils ont vu lupus, et c'est du quotidien. Ils sont, je vais quasiment 10 minutes à déjà les déstresser. Donc, c'est pour ça que c'est très important. Et ça, c'est fait religieusement. C'est-à-dire que nos amis obstétriciens, ce sont de très bons médecins. Quand tu leur dis ce qu'il faut faire, quand la société savante leur dit ce qu'il faut faire, ils le font religieusement. La société savante, elle a dit, faites les anticoantiphospholipides, bah, c'est fait dans tous les cas. Pourquoi aujourd'hui ces sujets...
Dans tous les cas où on a des arrêts de grossesse.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Ça fait, en tout cas, peu de
ça
gens...
Ça fait partie du bilan de base.
Ça fait partie du bilan de base. Mais aujourd'hui, le sujet des SAPL, hein, dont je fais partie, des recommandations internationales, a changé. Pourquoi ? Parce qu'on a observé que dans les grossesses arrêtées répétées isolées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas associées à un retard de croissance in utero, à une mort fœtale tardive, à une pré-éclampsie, à une prématurité, le concept même du SAPL, on y croit de moins en moins. C'est-à-dire que les femmes qui font des grossesses arrêtées répétées, la cause auto-immune pour beaucoup d'experts, dont je fais partie, mais là encore, ce n'est qu'un avis d'experts, on n'y croit pas beaucoup. Et aujourd'hui, on l'a mis dans les recommandations, on l'a mis dans les critères diagnostiques de nos maladies auto-immunes qui les s'appellent. On a mis de façon très claire, quand on n'a que des grossesses arrêtées, qu'on a un seul anticorps, ce n'est pas un SAPL. Et donc aujourd'hui, dans la majorité des cas, bah, ce n'est plus un SAPL, et surtout quand ces anticorps sont faibles, surtout quand c'est 10 IgM, bon ça c'est un peu du détail, en tout cas, et surtout bien sûr s'ils ne sont pas persistants. Ce qui fait que ce concept des grossesses arrêtées associées au SAPL, aujourd'hui, il y a toujours, bien sûr, hein, des patients qui ont probablement ce phénotype, mais il est très certainement beaucoup moins fréquent que ce qu'on penserait. En tout cas, c'est vraiment très, 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 très rare.
Ouais, c'est surcoté, quoi. On cherche ça, alors qu'en fait, il y aurait d'autres trucs plus impactants à faire.
Et si vous voulez, aujourd'hui, en vrai, c'est pour ça que des fois, les patientes sont un petit peu déçues. Si on regarde les choses froidement, en fait, on n'est pas bon aujourd'hui dans les marqueurs diagnostiques. On a une femme chez qui on n'a pas fait l'analyse génétique de l'embryon pour éliminer l'aneuploïdie. On a le SAPL qu'on va chercher, mais c'est rarement le problème. On a tous les tests de l'alloimmunité, de l'incompatibilité, les HLA, KIR-NK, etc., qui ne sont pas validés. Et donc, c'est vrai qu'on pourrait en sortir déprimé, mais non. Non, parce qu'en fait, en revanche, les thérapeutiques aujourd'hui qui se sont développées, immunologiques, hein, bien sûr, sont très honnêtement plutôt pas mauvaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est plutôt au stade de dire... lequel de mes traitements va marcher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 9 thérapeutiques validées, en tout cas suffisamment prometteuses hein, en France et dans le monde. Donc, le tacrolimus par nos amis japonais, le GCSF par nos amis espagnols, les immunoglobulines par nos amis des Pays-Bas, les antralipides, un peu bon loup de la France, peu importe. Et on va dire, les immunoglobulines, bien sûr, on va dire sur la panoplie de ces thérapeutiques, même si je ne suis pas sûr que c'est immunologique, quel est le modèle et quel est, etc., en fait, je fais la même chose que je fais dans toutes les autres maladies immunologiques. Dans ma polyarthrite rhumatoïde, je utilise un traitement et je sais que, certes, peut-être en utilisant plusieurs traitements, malheureusement, c'est ça le vrai problème, je vais quand même y arriver, très honnêtement. Mmh. C'est-à-dire que l'échec de plusieurs traitements aujourd'hui, il existe, hein, évidemment, il est réel, mais il est aussi vrai dans la polyarthrite rhumatoïde. Vous avez 70% des gens qui vont répondre à une première ligne et vous avez après 30 ou 40% des gens qui ne répondront pas à 2, à 3, à 4, à 5. Donc, c'est la même réalité. Et la seule chose qui a changé pour moi, en tout cas, c'est pas les tests diagnostiques, c'est le fait que j'ai plus de traitements. Il y a 10 ans, j'avais que la cortisone. Aujourd'hui, j'ai 9 molécules, 8 à 9 molécules, parce qu'il y a aussi l'interleukine 2 qui arrive. On a fait un essai thérapeutique plutôt prometteur. Donc, on a 9 molécules aujourd'hui et c'est maintenant le choix de la molécule qui m'emporte. Je prends un exemple pour que les gens comprennent bien. Quand on a développé et découvert la pénicilline, et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas l'histoire par hasard, hein, c'est un laborantin qui est parti parce qu'il était un peu fatigué, il a laissé sur sa paillasse et puis il est revenu. C'est pas quelque chose qui a été cherché. En fait, la pénicilline a été découverte de façon un peu, on va dire, fortuite. Au départ, on mettait un antibiotique le même pour tout le monde. Donc, c'était de la médecine non personnalisée, infectieuse. C'est exactement ce qu'on fait dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui dans les grossesses arrêtées avec un traitement, on va dire, qu'on va tester, malheureusement, sans être certain qu'il va convenir à la personne. Bah, aujourd'hui, dans les maladies infectieuses, on a développé l'antibiogramme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mettre l'antibiotique, mais on va isoler le germe, on va savoir exactement à 100% de façon fiable quel antibiotique marche, et on va donc mettre le bon antibiotique. Ça, c'est la médecine personnalisée.
Ce qu'on fait ouais, de là, on n'est pas à l'aveugle. Quoi. On sait ce qu'on a diagnostiqué, on sait ce qu'on traite.
Mais en revanche, on est quand même à l'aveugle 48 à 72 heures. C'est-à-dire que n'importe quelle personne qui vient aux urgences, on n'a pas tout de suite le test de la bactérie. Il nous faudra quelques jours. Et donc, en vrai, on fait de la même médecine. On fait de la médecine de la même façon. Donc, ce qu'on attend aujourd'hui de la recherche et ce qui va se passer dans les 5 à 10 ans, hein, ça c'est clair dans les grossesses arrêtées, puisque c'est parti comme ça, on va d'abord valider parmi ces 8, 9, 10 médicaments lesquels sont vraiment efficaces par les belles études, et ça, c'est sûr que ça va venir, ne serait-ce que de notre part, et ça, c'est clair. Et par la suite, ce qu'on espère, c'est de valider le fait que on puisse, dès le départ, à un couple donné, de dire c'est ce traitement, à l'instar de ce qu'on fait pour les antibiotiques, qui va être le plus efficace pour vous, pour bien sûr éviter, malheureusement, une nouvelle grossesse arrêtée, malheureusement, de retenter de nouveau des traitements, de subir les effets secondaires, etc. Sachant que gardons en tête un concept important. Lorsqu'une femme a 30% d'aneuploïdie, elle va avoir à peu près une chance sur 5 de tomber sur un embryon chromosomiquement anormal, y compris si c'est une cause immunologique. Et donc, il faut bien comprendre que c'est pour nous très important ce concept qui soit bien compris, que plus on fait de grossesse, plus on a des chances ou malchances, ça dépend comment on voit les choses, de tomber quand même sur une grossesse chromosomique. Et que par contre, quand on fait donc un traitement, si je tombe sur une grossesse chromosomique et je n'ai pas analysé le produit de la grossesse, je ne saurais pas si c'est une grossesse par échec de mon traitement immunologique ou si c'est une grossesse sporadique sur une maladie immunologique, mais qui était cette fois-ci chromosomiquement anormale, et auquel cas, bien sûr, mon traitement ne fera pas de miracle.
Ouais. On est d'accord. Oui. Non, donc la clé, c'est d'améliorer effectivement le diagnostic par une meilleure prise en charge des arrêts de grossesse et de l'analyse de la raison de l'arrêt de la grossesse pour pouvoir après vous ajuster le bon traitement. Pas comme vous disiez tout à l'heure, la fièvre, bah, je ne sais pas pourquoi il a de la fièvre, je donne un truc, ça la fait tomber. Là, pas se dire, bah, je tente un truc sur un malentendu, ça marche, mais savoir vraiment ce qui marche pour quelle situation.
Bah, ça serait bien sûr l'idéal et on va y arriver. Ouais, ouais. Mais ça va nécessiter quelques années de travaux.
Ouais. Mais en attendant, vous avez tout un arsenal un peu thérapeutique pour tenter des choses qui, quand même, la plupart du temps, fonctionnent. C'est ça que vous disiez, hein. Les intralipides, etc.
En tout cas, écoutez, nous, avec Jonathan, on était très, très, très fiers parce qu'on était pour une fois désespérés. On a une femme qui a fait 18 grossesses arrêtées, dont 7 avec nous. Hein. Elle a essayé 7 traitements différents. J'avoue qu'on commençait à être un petit peu... Voilà. Eh bien, écoutez, elle a accouché là, donc on est très heureux. Donc, si vous voulez... Ce qu'on dit aux femmes, c'est oui, non, les médecins ne promettent pas des miracles. Les médecins promettent un parcours qui est, par contre, où on les soutient, on avance ensemble et que il faut accepter, et ça, c'est le vrai de la médecine quotidienne dans tous les autres domaines, hein, il faut accepter, malheureusement, qu'on ne sait pas tout. Mais ça ne nous empêche pas d'avancer, une fois de plus. C'est pas parce qu'on ne sait pas forcément. Le bon médecin est celui qui peut avancer même s'il n'a pas les éléments. C'est ce qui distingue les médecins entre eux. Vous avez des médecins qui peuvent avancer même s'ils sont dans le flou. Et ça, c'est le plus important. Mais il faut bien le comprendre et que la recherche, progressivement, va faire que, de plus en plus, bah, ça va être facile pour les femmes parce que dès le début, et mon rêve personnel, hein, c'est avoir leur retraite, faire un bilan qui permet, avant même d'avoir une grossesse, de savoir qu'elle va bien se passer. Vous voyez, ça serait...
Oui, en prévention.
Bah oui, parce que je n'ai pas envie, si vous voulez, qu'une femme subisse une grossesse, qu'elle ait une grossesse arrêtée, et puis après, on se dit, ah tiens, ça ne va pas. Pourquoi ne pas faire un test dans ce cas-là en amont? Et on va y arriver. On va y arriver un jour ou l'autre. On pourra, en tout cas, prédire de façon raisonnablement suffisante, oui ou non, le potentiel d'une grossesse sans événement, parce que c'est ça qu'on veut. On veut juste en avoir, évidemment, à terme.
Le reste, sur la partie immunologique, vous voulez dire, ou dans l'absolu?
La partie génétique.
On ne peut pas tout prévoir non plus.
Ouais. Aujourd'hui, sur la partie génétique, c'est déjà disponible. Pour toutes les femmes qui font du VGTA, on fait de l'embryon euploïde et on sait déjà qu'on est sur un embryon chromosomique normal. Donc ça...
ouais. Non, mais là, il faut être en PMA. On n'est pas sur de la grossesse naturelle.
Tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui. Oui, mais des techniques se développent. Hein. Aujourd'hui, les techniques, par exemple, existent même où on fait juste une prise de sang et on fait que l'embryon est anormal chromosomiquement. Les techniques se développent à telle vitesse que même ça, probablement, ça va se développer. Je parle d'un futur dans les 15 ou 20 ans, quand même.
Ouais. Après, il y a tous les sujets éthiques pour que ce soit autorisé en France, notamment le DPI, enfin le diagnostic préimplantatoire.
Alors ça, je ne vais pas rentrer là-dessus parce que ça,
c'est moi. Non, je dis juste que c'est un frein.
Juste l'idée quand même, c'est que bon, on est entouré de pays européens qui pratiquent quand même tous, quasiment le PGTA.
Aujourd'hui,
y compris des pays très chrétiens. Moi-même, je suis chrétien, donc je peux le dire. Y compris des pays très chrétiens comme l'Italie et l'Espagne. Bah, donc voilà. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est pas le mien. Moi, le sujet important globalement, c'est que il y a une évolution, même si ça se voit pas comme ça. Pour les personnes qui sont vraiment dedans, il y a un changement majeur. C'est-à-dire que ça s'est mis en marche. On va avoir des progrès. On a déjà des progrès et on va consolider en fait beaucoup de progrès et le parcours va s'améliorer. Il y aura des tout ce qu'on a fait en France, c'est des modèles qu'on va tout simplement utiliser. On a en France, dans tous les maladies rares, aujourd'hui des parcours fléchés, si vous voulez, qui permettent d'éviter toutes ces faits que voilà, les femmes voient 10 médecins des fois parce qu'elles pensent que l'un est meilleur, l'autre est moins bon, etc., etc., parce qu'elles ne peuvent pas le savoir. Elles ne peuvent pas comprendre, parce qu'elles ne sont pas forcément, bien sûr, médecins, que malheureusement, on a en médecine, dans tous les domaines, une part d'incertitude qui est majeure, en vrai. Et elle ne nous empêche pas forcément d'avancer. C'est ce qui est le plus important.
Oui, c'est ça. C'est que même si on n'a pas encore assez bien fait de la recherche pour le diagnostic, on a des thérapeutiques qui permettent. Et vous, je sais que j'entends souvent parler de vous pour ça, pour les injections d'intralipide. Peut-être juste pour conclure, si vous pouvez nous dire en deux mots ce que c'est.
Aujourd'hui, globalement, on a des stratégies d'immunomodulation qui ne sont donc pas démontrées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut vous dire au monde, c'est ça qui marche et c'est comme ça qu'il faut faire. Et aujourd'hui, donc, les médecins utilisent des thérapeutiques ou des stratégies qui sont en fait globalement extrapolées d'autres domaines. Et c'est ce qu'on a fait dans d'autres maladies. Je vous reprends l'exemple de la maladie de Crohn. On a initialement, sur les maladies rares, comme par exemple la polychondrite atrophiante, observé avec le Crohn et la polychondrite que le malade s'améliorait aussi pour la polychondrite et avancé comme ça. Donc, en fait, on fait de la même façon comme on a toujours fait dans beaucoup d'autres domaines. On utilise des molécules qu'on connaît déjà. Donc, on a dans ces molécules les inhibiteurs de TNF-alpha qui sont utilisés donc dans quasiment toutes les maladies inflammatoires. Et on a donc le premier essai mondial aujourd'hui, on en est fiers en France, le Certify pour tester cette molécule avec un placebo, donc une vraie étude méthodologique. Et donc, on espère qu'elle soit bien sûr positive. On a le tacrolimus qui est un médicament modulateur immunosuppresseur donc de nos amis japonais qu'on utilise pendant la grossesse dans beaucoup d'autres maladies. On a les intralipides qui sont en train de moduler en fait ces UNK, donc les UNK qui seraient excessifs et qui donneraient donc de l'inflammation qui empêcherait potentiellement de l'implantation. Je dis bien tout ça au conditionnel parce qu'il n'y a pas d'essai qui démontre le bénéfice des intralipides et il n'y a pas suffisamment de données qui montrent comment les intralipides marchent. Donc tout ça, ce n'est pas encore à ce jour. On a l'interleukin low dose, on est les premiers mondiaux en France à avoir fait un essai thérapeutique, on est les seuls pour l'instant à l'utiliser, et c'est la seule molécule potentielle qui donc augmente en fait la tolérance materno-fœtale en boostant donc les populations tolérogènes de la maman. On a le GCSF qui est donc une autre molécule qui est très importante pour la placentation et donc pour toute la mise en place, en tout cas de l'implantation, qu'on n'utilise pas très fréquemment en France, mais que je viens d'utiliser là en septième intention, c'est-à-dire la patiente, elle a eu 6 autres traitements et elle a enfin accouché. Donc voilà, bon, on est content quand ça marche, mais vous trouverez pas beaucoup de gens en France qui vous le prescrivent. C'est vraiment beaucoup une prescription donc de nos amis espagnols. Mais là encore, je dis bien aux patientes, on voit les femmes qui utilisent tout ça, donc on voit les échecs. Ce ne sont pas, dans aucun cas, aucun traitement n'est un miracle. Le traitement et surtout lequel va convenir potentiellement. Et on a bien sûr les humeurs intraveineuses qui, pour le coup, est la seule aujourd'hui molécule qui a été quand même, et ça c'est très important, qui a été mis en tout cas dans les recommandations l'Échreux, rappelons-le, c'est la société savante, en tout cas internationale, et c'est la seule thérapeutique immunomodulatrice qui a été mise comme potentiellement utile dans les grossesses arrêtées, parce qu'il y a pour une fois un bel essai de nos amis japonais qui semble être positif. Je dis bien qui semble parce que bon, on passe les détails là, mais il ne l'est pas suffisamment pour qu'on soit solide. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, très prochainement, dans 6 mois, vous allez avoir les recommandations françaises auxquelles je contribue, qui vont reprendre ces molécules une par an. Et alors là, pour une fois qu'il y a un immunologiste dans ces recommandations, je peux vous dire qu'ils y seront tous. Et vous allez avoir, par contre, le niveau de preuve très faible aujourd'hui, bien sûr, pour pouvoir les utiliser. Mais quand les gens ont l'expérience, voilà, comme nous, en tout cas, on en fait beaucoup, on voit suffisamment de situations pour quand même avoir de l'espoir. Voilà, une femme qui a fait 17 grossesses arrêtées, vous mettez un traitement, elle a un enfant. Bon, ça peut être du hasard. Écoutez, pourquoi pas, et je serais content. Mais on a quand même envie de penser que c'est le traitement.
Ouais, attention, bien sûr.
Ça ne démontre pas l'avantage en traitement. Ce sont que des essais thérapeutiques académiques bien menés qui peuvent le montrer. Et donc aujourd'hui, on a des essais en cours et donc ça va venir.
Ouais. Bah, vous viendrez nous donner les news quand on aura le résultat de tout ça. On fera un nouvel épisode update. Je pense qu'on s'est tout dit. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager
Deux
sur
petits
tout
mots
ça
de la fin.
Allons-y.
Premier mot, c'est toujours le même. C'est ce que j'ai dit à la dernière fois. Il faut croire en ceux qui vous accompagnent. Et il faut ne pas se cloîtrer, on va dire, dans plein de choses qui sont beaucoup trop répétitifs, des règles qui sont beaucoup trop strictes et empêcher de vivre. On va y arriver. C'est vrai, j'ai vu des couples où, quand ils ont enfant, l'enfant, que j'ai compris combien ils ont souffert, hein, parce que j'ai vu certains que je n'ai pas reconnus, hein, tellement, en fait, cette souffrance, même moi, je ne l'ai pas perçue. Hein, donc. Mais oui, bien sûr, c'est une souffrance très importante, on le sait, mais il y a un parcours. Hein, sur ces parcours, plus ou moins longs, on va y arriver. Et je peux vous dire que, par contre, après, quand on est content et quand on a fini par y arriver, ils sont beaucoup plus heureux que d'autres. Hein. Donc ça, c'est aussi dans le malheur, toujours le bonheur. Troisième chose, hein, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent de dire tout et des fois n'importe quoi. Il y a toujours, et j'ai bien regardé hein, tous les commentaires, il y a toujours beaucoup de choses, d'agressivité, etc. L'humilité, la bienveillance, le collectif sont les éléments les plus importants. Non, je ne suis pas en train de dire une vérité. Je n'ai pas dit ça. Je suis en train d'essayer d'avancer tout ce que je peux faire. Non, Lorraine n'est pas parfaite hein, et on est tous pareil, et que la bienveillance est très importante. La bienveillance nous permet d'avoir un dialogue qui est globalement un dialogue, bien sûr, de bonne foi, etc. Et que, par contre, il n'y a aucune vérité, hein, si on veut chercher la vérité, elle est difficile à trouver. Donc voilà, ce sont des éléments importants. Ouais. Et puis surtout le progrès. Je peux vraiment, je suis premier, vraiment être heureux, parce que je vois le progrès enfant dans ce domaine, et il vient de nos amis, c'est-à-dire on vient de nos amis spécialistes. Ils ont une vraie considération aujourd'hui pour sur cette thématique. Elle devient enfin un vrai sujet. Et ça, c'est le plus important. Quand les médecins se mettent en marche, on va y arriver.
Oui. Ouais, les médecins se mettent en marche. Les femmes y croient très fort. Et tout le monde avance dans cette direction.
Ça avance.
Très chouette. Merci Arsène pour tout ça. C'était technique, mais en même temps, je pense que ça permettra à plein de couples concernés d'avoir plein de pistes pour avancer. Donc, merci du fond du cœur.
Merci à vous. À bientôt.
Si vous êtes encore là, merci du fond du cœur. Encore une fois, c'était un épisode peut-être un peu plus technique, avec des termes moins connus. Mais j'ai fait en sorte qu'Arsène vous les explique. Si vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser. Et comme d'hab, n'hésitez pas non plus à venir mettre une note, un commentaire, une étoile, un cœur, tout ce que vous voulez sur la plateforme sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast ou de le visionner en vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous embrasse.
Émancipé.
Émancipé.
Émancipé.